Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
On est avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
Bonjour Geneviève.
Écoute, on commence par un dossier qui, me fait réagir quand même pas mal. Denis Kodak s'est mêlé du dossier de la Formule 1 à Montréal sous la demande du ministre Fitzgibbon.
Oui. Tu sais, Denis Kodak, là, quand il est parti dans la controverse, on va le dire, il n'avait pas été réélu en 2017 parce qu'il y avait entre autres le fiasco de la Formule E. Il avait organisé un événement un peu contre vents et marées, qui avait mal tourné, les gens avaient été dérangés, pas beaucoup de spectateurs, des billets donnés, un rapport dévastateur, ça s'était très mal passé.
Mm-hmm.
Puis, beaucoup de gens avaient mis ça un peu sur le compte de son style, comment qualifier le style de Denis Coderre?
Cavalier.
C'était un gars, on va se le dire, qui était tanné, il travaillait trop, ça allait pas bien dans sa vie personnelle, il était pas tout à fait sympathique quand il répondait aux questions des médias, il était usé, on va se le dire.
Mm-hmm.
J'apprends rien à personne en disant que Denis Coderre, à la fin de son premier mandat, là, il avait besoin de se reposer. Là, quand il revient en politique, Denis Coderre, il y a quelques mois, il nous dit « J'ai changé, croyez-moi, la Formule E, c'est du passé ». Ce qu'on découvre en coulisses, en faisant des coups de téléphone à des gens très, très près du dossier, là, des gens là, autant là, à Québec qu'à Montréal, c'est que le Denis Coderre de 2017 est encore présent. C'est-à-dire qu'on a un candidat à la mairie qui n'hésite pas à prendre le téléphone, à proposer, il s'entache très peu dans le protocole. Alors, ce qu'on a révélé ce matin, donc, c'est que il semble que le ministre Fitzgibbon lui-même a demandé à Denis Coderre, sachant qu'il était bien branché sur la haute direction de la FIA, si c'était possible qu'il fasse un couple de coups de fil. Denis Coderre, ben oui, si j'ai appelé Jean Todt, qui est le président de la FIA, puis j'ai appelé Stefano Domenicali, qui est un peu le directeur exécutif de la Formule 1. Puis c'est du monde que je connais. Ça, on peut bien imaginer que Denis Coderre a les numéros de cellulaire de ces gens-là.
Ouais.
Mais ça pose plein de questions. Là. Denis Coderre, présentement, c'est pas le maire de Montréal. Là. C'est pas un citoyen comme n'importe quel autre citoyen non plus. C'est un candidat à la mairie. Et moi, je me demande vraiment si c'est une bonne chose que le gouvernement du Québec demande à un candidat à la mairie de Montréal de l'aider dans ses démarches.
Mais ça fait certainement pas impartial. Là. C'est comme si le gouvernement décidait de l'issue des élections. Puis non seulement ça, si j'étais Valérie Plante, je serais vraiment très insultée. C'est comme s'il était passé par-dessus la madame.
Bien, on doit parler à Valérie Plante aujourd'hui. Là. J'ai bien hâte de savoir ce qu'elle en pense. Je peux comprendre là, que Denis Coderre est très bien branché à la FIA qui organise le championnat de Formule 1. Mais dans la mesure où tu as reçu un coup de main de quelqu'un comme Denis Coderre, pour ça, comme gouvernement du Québec, c'est difficile de dire que tu vas être neutre et impartial dans la course à la mairie. Tu sais, la question se pose, là, est-ce que le gouvernement Legault préférerait que ce soit Denis Coderre plutôt que Valérie Plante à la mairie de Montréal? On sait que dans le passé, les relations n'ont pas toujours été très, très, très harmonieuses entre Valérie Plante et la coalition Avenir Québec. Puis ça peut se comprendre.
Mm-hmm.
C'est des partis politiques qui ont des positions très, très tranchées et des fois divergentes.
Je comprends, mais quand tu joues le jeu politique, tu joues le jeu. Tu sais, je veux dire, là, c'est elle la mairesse de Montréal. Ça a l'air drôle.
Effectivement, appeler l'adversaire de la mairesse de Montréal, un candidat à la mairie, pour lui demander d'aider dans les négociations, ça fait très particulier, en effet. Chose certaine, on n'a pas senti de malaise à Québec. Pierre Fitzgibbon, on connaît son style très direct.
Jean-Louis.
Un peu comme Denis Coderre.
Oui.
Du tapis.
Il n'est pas souvent mal à l'aise avec ce qu'il fait.
C'est ça, exactement. Et Denis Coderre non plus, soit dit en passant,
oui.
Lui, oh oui, j'ai aidé mon coup de main, puis voilà, ça a pu contribuer.
Oui, une petite journée d'aide. Puis il en a profité pour dire que ces gens-là lui répondaient très rapidement au téléphone. Donc on voit que son égo ne l'a pas tellement quitté.
Effectivement, puis Stefano Domenicali, c'est Stefano uniquement. Donc
Steph pour les intimes.
Exactement. Donc, c'est assez particulier. Je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur ce sauvetage du Grand Prix. Qui, dois-je te rappeler, consent donc des fonds publics supplémentaires la FIA. On parle quand même de 2 années de prolongation, à peu près 50 millions de dollars de fonds publics. Et on aide un événement qui est entre les mains maintenant du géant Bell, qui vaut plusieurs, je pense que c'est au moins une cinquantaine de milliards de dollars en bourse aux dernières nouvelles. Donc, ça s'ajoute là au tissu de mystères et de questions qui se posent autour de cette du sauvetage de cet événement.
Ben, ça va être en tout cas intéressant de suivre la course à la mairie. J'ai envie de te dire ça.
Tout à fait.
En tout cas, j'ai hâte de voir si Denis Coderre va être magnanime, comme il nous l'a annoncé. Le journaliste du bureau d'enquête, Marc-André Sabourin, se penche sur la place de Huawei au Canada. Je pense que c'est le premier reportage vidéo de Marc-André qui a fait quand même des choses formidables par le passé. Là, moi, j'ai très, très hâte de le voir.
Oui, c'est un documentaire vraiment exhaustif. Là. C'est un documentaire d'une heure qui est disponible sur Club Illico depuis jeudi passé. Puis vraiment, là, allez voir ça, ça vaut la peine. Ce qui me fascine dans ce documentaire-là, c'est la profondeur des sources qui sont interrogées. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on fait un reportage sur quelque chose, puis on cite des gens qui connaissent la situation plus ou moins de près, des gens qui ont une opinion, mais bon. Mais dans ce cas-là, Marc-André est allé réussir à confesser, à asseoir à la caméra des gens qui ont été dans des postes de haute direction chez Huawei Canada.
Mais qu'est-ce qu'ils font, Huawei, pour ceux là qui savent pas? C'est des trucs de télécommunication, là.
Ouais, Huawei, essentiellement, bon, c'est le plus gros fabricant de téléphones, d'appareils, de téléphones cellulaires au monde, mais c'est aussi et surtout, puis ça, on le voit un peu moins, ils fabriquent toutes sortes d'antennes et de radios qui permettent au réseau de télécommunication de fonctionner. Par exemple, Bell, Telus, Vidéotron, Rogers, ce sont des fournisseurs de services, mais ces compagnies-là doivent acheter de l'équipement pour avoir un réseau, acheter des antennes, des radios, et un des plus gros fournisseurs d'équipement de ce type-là à travers le monde, c'est Huawei. C'est surtout Bell, Telus, Rogers qui ont des équipements de Huawei au Canada. Mm-hmm. Et Huawei, on le sait, hein, c'est une entreprise qui a de moins en moins bonne presse. Il y a toutes sortes d'allégations à travers le monde, notamment aux États-Unis, d'espionnage industriel qui concerne Huawei. On connaît les méthodes de la Chine. Ça date pas d'hier. Et aux États-Unis, ça nous avait surpris il y a quelques mois, le département, les États fédéraux ont lancé un programme pour enlever au plus vite ces antennes-là, ces radios-là, parce qu'ils craignent l'espionnage. Le programme, en anglais, s'appelle Rip and Replace. Rip, là, c'est arracher. En plus, arrachons et remplaçons les antennes au plus vite. Donc, c'est pas délicat. Parce qu'il y a vraiment des inquiétudes. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays qui veulent se débarrasser du matériel Huawei. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède aussi ont tous dit, comme les États-Unis, il n'est pas question que Huawei fournisse de l'équipement pour le réseau de prochaine génération, le 5G qui va révolutionner, entre autres, à cause de la vitesse les communications de celles-là. Alors, au Canada, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Ben, le gouvernement Trudeau n'a pas tranché là-dessus. Mais le reportage de Marc-André nous amène des réponses très éclairantes sur ce que Huawei, la façon dont ils se sont installés au Canada, d'abord, depuis 2009. On se rend compte que les gouvernements Harper, au fil des années, ont ouvert toutes grandes les portes pour que Huawei installe de l'infrastructure. Les sources citées dans le reportage nous montrent un peu la méthode, hein. Il y a des gens même qui nous racontent qu'il y a eu une mystérieuse attaque informatique en provenance de la Chine qui aurait visé Nortel et qu'il y a toutes sortes de secrets industriels, de documents de très, très haute valeur qui auraient été dérobés de cet ancien géant canadien des télécommunications. Nortel, on se rappellera, dont la chute a été spectaculaire. C'était un peu le fleuron canadien des télécoms, une entreprise d'envergure mondiale qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ça posait la grande question, est-ce que la Chine a volé au Canada la technologie de pointe qu'on avait, l'expertise qu'on avait? On sait qu'ils ont embauché par la suite, que Huawei a embauché certains des experts qui travaillaient chez Nortel. Ça soulève une question intéressante, puis il se trouve des experts pour penser que grâce aux équipements qui sont installés ici, Huawei pourrait avoir la capacité de nous espionner.
Mais il y en a même qui pensent que c'est le plan caché de la Chine. Là, on n'ira pas aussi loin que ça. Là, ce sont des théories quand même qui vont très, très loin, mais quand même.
Moi, Geneviève, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Il faut prouver ce qu'on avance. Il faut parler à des gens qui détiennent, qui sont près de l'affaire, qui détiennent l'information. Ouais. Mais minimalement, quand on parle, par exemple, à l'ancien directeur des services secrets canadiens, Richard Padden, lui, c'est pas le gars qui passait le balai, c'est le gars qui dirigeait les services secrets canadiens. Puis lui, il pense qu'il faut tout enlever. Tous les équipements Huawei au Canada.
Et là, là. Ben, c'est ça. Puis, Marc-André, je pense, il faut souligner son travail. Il réussit à parler à des sources qui sont très, très près du dossier. Et ça, c'est pas souvent qu'on a accès à ce type de sources-là. Ça s'appelle La Brèche. C'est disponible sur le Club Illico. Vraiment, moi, je l'ai pas encore vu, Jean-Louis. Je me réserve ça. J'avais les enfants en fin de semaine. Donc, pas de temps. Mais là, ils sont partis. Je te jure, ce soir, je sais ce que je fais. Yes. J'écoute ça. Merci, Jean-Louis.
Ça va être une heure bien investie.
Exactement.
Bien,
bye, bye.